courant porteur. Initiative et résilience d'un territoire.
Un temps pour découvrir des personnes, des projets et dynamiques qui se passent maintenant et à côté de chez vous.
Un temps pour décrypter des sujets de fond, comprendre et donner du sens.
Une émission mensuelle présentée par Elisabeth Lucan et Ludovic Jiquel, cofondateurs de Sonnaissance.
Une association qui accompagne la création d'entreprises dans le Val-de-Saône. Bonjour auditrices et auditeurs de Calade Ma Radio, bonjour Ludovic.
Bonjour Elisabeth.
Alors, deuxième émission de notre programme spécial été. On accueille à nouveau notre couple dans la vie et dans en entrepreneuriat, Sébastien et Jérémy. Bonjour Sébastien.
Bonjour Elisabeth.
Et bonjour Jérémy.
Bonjour Elisabeth.
Donc, ça sera toi, Jérémy, qui sera à l'honneur sur cette première partie d'émission. Et puis sur la partie fond, deuxième partie des 10 principes de l'entrepreneuriat durable qu'on a imaginé suite et avec nos accompagnements chez Sonnaissance. On démarre. Jérémy, j'ai envie de savoir qui tu es et quel est ton parcours.
Alors, qui je suis ? Jérémy, je vais sur mes 39 ans et mon parcours, pour commencer, mes premiers amours étaient la cuisine. Je devais rentrer en CFA pour faire une école de cuisine en alternance. Et je travaillais l'été qui précédait cette alternance chez un restaurateur. Et à la fin de cet été, je me suis dit, c'est pas du tout fait pour moi.
Aïe, aïe, aïe.
L'idée de cette brigade militaire, ça ne me correspondait pas du tout. Mais il fallait faire quelque chose à la rentrée. Et du coup, mon deuxième choix était de faire de la décoration, créer. Et j'ai eu la chance de rencontrer une personne, comme ça, son parcours, qui était la directrice d'une école où il y avait ce CAP, tapissier décorateur. Et il restait quelques places pour rentrer dans cette formation. Du coup, je suis rentré dans cette formation pour 2 ans, pour faire mon CAP. Suite à ce CAP, j'ai fait mon bac pro, tapissier décorateur, que j'ai obtenu en 2006. J'ai travaillé ensuite pendant 1 an chez un tapissier décorateur. C'était super, mais cette idée de création n'était plus du tout présente. À l'école, on était libre de faire nos choix, de faire nos décors, de faire nos créations, de tout développer de nous-mêmes, alors que, en tant que pro, ensuite, il fallait répondre à une demande d'un client, même si on pouvait faire des propositions. C'était pas vraiment, pas souvent validé en tout cas. Et du coup, on répondait à une demande d'un client et non pas notre sollicitation de création. Donc, je trouvais plus cette âme de créateur que je voulais amener en tout cas. Donc, j'ai été un petit peu perdu suite à ça. Qu'est-ce que je pouvais faire après cette année? Et pareil, des rencontres. Donc, je suis allé travailler à la Croix-Rouge, en faire des maraudes, et j'ai rencontré un médecin qui, lui, travaillait pour le handicap. Elle m'a dit, ça te dirait pas un petit peu de faire un essai dans telle ou telle structure? Ils cherchent des personnes non qualifiées au début pour pouvoir se qualifier, pourquoi pas après.
Peut-être tu peux préciser ce qu'est les maraudes pour certaines auditrices.
Ah, les maraudes. Oui. Donc, les maraudes à la Croix-Rouge, ce sont des tournées proposées par la Croix-Rouge. Pour moi, c'était par les personnes SDF, où on pouvait leur apporter une boisson chaude, un repas, des couvertures, de la lecture. Voilà.
Donc on tournait. Et de la compagnie, quoi.
Voilà, de la compagnie. J'ai passé un temps avec eux. Voilà, c'était sur Lyon. Et je me suis dit, suite à cette rencontre avec cette médecin qui m'a dit, il y a tel et tel établissement qui pourrait rechercher, je te donne le contact, est-ce que tu voudrais y aller? Je me suis dit, pourquoi pas. J'ai fait cet entretien et c'était un super entretien. On m'a dit, tiens, Jérémy, tu pourrais faire un test. Il y a une place dans un IME. Donc, un IME, c'est un institut médico-éducatif pour travailler avec des enfants déficients intellectuels. Et j'ai fait cette semaine qui était super. Et je me suis dit, comment faire pour travailler vraiment dans ces structures? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Et on m'a dit, dis-moi.
Oui, je voulais juste savoir ce que c'était, qu'est-ce qui t'a plu dans cette semaine en fait d'immersion.
Ce qui m'a plu, c'est la rencontre avec l'autre, la vulnérabilité, si on peut dire, des enfants qu'on accompagnait, et de se dire que notre présence était ultra importante et qu'on amenait vraiment quelque chose, que je me levais le matin en me disant je vais servir à quelque chose et je vais accompagner, donner, transmettre des choses qui sont ultra importantes pour ces personnes-là. Si elles n'ont pas cet accompagnement-là, elles ne peuvent pas forcément évoluer dans le quotidien, dans la société. Mmh. Et cette idée de pouvoir être porteur de quelque chose, je ne dis pas que j'avais la réponse à toutes les problématiques, en tout cas de pouvoir donner ma petite pierre et pouvoir accompagner, aider, c'est vraiment quelque chose qui m'a
ouais,
parlé.
Qui t'a touché, ouais, qui t'a parlé. Ouais. Et du coup, tu as cherché à comment intégrer. Je t'ai coupé, pardon.
Non, c'est
je te rends là-bas.
Et là, on m'a dit, bah, Jérémy, il y a les concours, là, c'est bientôt. Est-ce que tu sens faire les concours? C'est le mois prochain. Hein.
Je me suis dit, ah oui, c'était là, maintenant.
Ah
là.
Oui, je me suis dit, bah, écoute, allons-y.
C'est parti.
Et j'ai fait mon dossier, hein, hop, j'ai fait tout ce qui s'est fait. Ça s'est tout enchaîné. Et on m'a dit, Jérémy, super, t'es accepté.
Ah ben, ça y est.
Bah, c'est très bien. Tu rentres à l'école au mois de septembre, t'as 3 ans d'école. Très bien. Donc j'ai fait mes 3 ans d'école, suite à ces 3 ans d'école où j'ai obtenu mon diplôme, ma licence. J'ai travaillé 15 ans ensuite dans différentes structures, donc toujours en IME, j'ai travaillé avec des prostituées pour la réinsertion professionnelle. J'ai travaillé 5 ans en psychiatrie également pour la réinsertion professionnelle des personnes après longue hospitalisation ou emprisonnement. J'ai arrêté la psychiatrie, je suis retourné en IME, travailler avec des enfants. Et voilà, après 15 ans et avoir vécu beaucoup de choses, accompagné beaucoup de personnes et traversé des choses super mais difficiles également. Voilà, je pense que j'étais surmené, que je m'écoutais plus, que j'étais plus dans le don plutôt que l'écoute de moi-même. Et il y a un moment, je me suis dit stop, je suis plus du tout dans l'accompagnement dans lequel je m'étais retrouvé au début. Et je répondais plus, en tout cas, moi, je répondais, il me semble que je ne répondais plus à ces attentes-là.
Oui, et puis il y avait un peu des structures aussi. Il y a toujours des dysfonctionnements ou des fonctionnements.
Oui, voilà. C'était pas
plus ou moins complexe dans les structures.
La structure, c'est ce qui m'a le plus détruit. C'est plus l'accompagnement dans les structures, ce que les structures demandaient, plutôt que l'accompagnement des jeunes. Mais du coup, ça empâtissait sur mon travail. Et je me suis dit, les jeunes, ils peuvent rien de ta démotivation de venir et du coup il vaut mieux arrêter, faire une pause et donner la place à quelqu'un qui a encore envie, qui a cette niaque que je n'avais plus.
Ouais, et puis pour ne pas non plus mettre le doigt trop sur les structures, il y a des réglementations, il y a des objectifs,
pour avoir
des financements, tu es obligé de répondre à ça. Et du coup il y a vraiment, voilà, c'est souvent... Hein,
c'est un maillage qui est compliqué à avoir.
C'est difficile de trouver le juste dosage, le juste équilibre.
Oui, bien sûr.
En tout cas, toi, c'était la fin, en tout cas, ta capacité à donner justement...
À accompagner.
Accompagner de manière juste.
J'ai dit stop. Donc j'ai demandé une rupture conventionnelle qui a été acceptée. Mm. Et suite à ça, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je sais faire, surtout? Qu'est-ce que je sais faire? J'avais l'impression de savoir faire que ça.
Mm. Je me rappelle.
Et suite à ça, j'ai fait la rencontre de Sébastien. Voilà, c'était en début d'été, cette rupture conventionnelle, et j'ai fait la rencontre de Sébastien, qui, du coup, lui est rentré dans ce processus, qui m'a parlé de son essence, et qui m'a dit, tiens, ça pourrait être cool pour toi, tu sais pas trop ce que tu veux faire, où tu veux aller, tu es un petit peu perdu, ce qui était vrai, je savais pas trop. Et du coup, j'ai participé à
votre programme.
À votre programme, exactement. Un petit peu perdu au début.
Léger.
Voilà. Donc, mon parcours, en tout cas professionnel, on était là avant de rentrer à son essence.
On va revenir là-dessus, mais parce que c'est vrai que c'est un peu la magie aussi de notre posture d'accompagnant, c'est qu'on a vu arriver Sébastien avec Ludovic, et puis quelques jours après, ça a été toi, ou quelques semaines après. Mm-hmm. Et on a travaillé ensemble. Et voilà, c'est, nous, on a à la fois accompagné chacun d'entre vous et en même temps la naissance de vos projets. Bon, on va y revenir. Mm-hmm. Du coup, si on en vient à cette question du point de bascule, T'as eu plusieurs bifurcations professionnelles. Ouais. Est-ce que t'as un point de bascule au-delà de ce que tu viens de dire, ta rencontre avec Sébastien et puis la fin, la rupture conventionnelle, pour t'engager dans ce projet de vie, projet pro et projet de vie?
C'était vraiment, comme tu viens de dire, c'était le surmenage un petit peu que j'ai eu de me poser cette question, de me dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire aujourd'hui? Pourquoi tu ne trouves pas plus de sens à ce que tu fais? Et quel sens tu veux donner à ta vie? C'était des grandes questions, je ne savais pas trop. Et ce point de bascule a vraiment été là. Après cette rupture conventionnelle, la rencontre avec Sébastien, et me dire, bon, écoute, là, tu as la possibilité de rencontrer d'autres personnes, de rencontrer autre chose, et qu'est-ce que tu pourrais apporter et faire avec ça? Il y a une opportunité là qui arrive. Est-ce que tu veux la saisir? Est-ce que tu veux pas la saisir? Je me suis dit, allez, fonce. Ça peut que t'apporter du bon.
Mmh. Il y a beaucoup de pragmatisme chez toi. Mais je vais quand même te poser la question. Est-ce qu'il y a un rêve à l'origine de ton engagement et de ton action?
Quelle question. Est-ce qu'il y a un rêve? Je ne sais pas si c'est vraiment un rêve, mais en tout cas, c'est plus de vouloir faire les choses par moi-même, de faire des choses qui viennent le plus profond de moi et qui ont du sens pour moi. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit un rêve, mais en tout cas, c'est mes expériences passées qui, aujourd'hui, me font réfléchir autrement et réfléchir à ce que j'ai envie de mettre de bon dans mon quotidien, dans mon travail, dans mon futur.
Super. T'es prêt à nous parler de ton projet?
Oui.
Parce que c'est vrai qu'au début, je me permets, hein, tu fais partie des personnes qui arrivaient plutôt sur la phase émergence, où effectivement, tu n'avais pas de projet quand tu es venu. Mmh. Et tu étais même encore très, très empreint de tout ce que tu ne voulais plus faire.
Oui.
Et c'est vrai que le début, ça a été beaucoup de questionnements chez toi. Et tu t'es mis à la tâche avec Sébastien, ça a été hyper fluide, naturel.
Exactement.
Donc, en plus, vous êtes hyper complémentaires. Donc, tu t'es un peu moulé, coulé glissé dans le projet de Sébastien. Et puis, chemin faisant, il y a quelque chose qui a émergé pour toi.
Exactement. Donc, en accompagnant Sébastien, comme j'ai pu, en tout cas, dans son projet. Et j'ai beaucoup aimé l'idée de travailleur ambulant, de bouger, d'accompagner là-dedans. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire à travers ça? C'est super de l'accompagner, mais j'aimerais bien aussi avoir mon projet, avoir mon idée.
Bien sûr.
Qu'est-ce que je pourrais apporter en plus ou de différent à ce projet-là, mais tout en restant en travaillant ensemble, en essayant de se suivre. Et du coup, j'ai essayé de me rappeler mes premières envies qui étaient la cuisine. J'essaie de me rappeler de ce qui m'avait déplu là-dedans, mais qu'est-ce qui m'avait surtout plu, qu'est-ce que j'avais aimé. Et voilà, ça a fait un petit peu son chemin, et l'idée de faire des crêpes m'est venue. Comment l'idée m'est venue, je crois que c'est parce que je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de reportages et des choses comme ça, et je me suis dit, attends, c'est quelque chose qui me semblait simple au début. Et je me suis dit, mais c'est surtout quelque chose, en travaillant en ambulant, je ne sais pas si on peut dire comme ça, c'est quelque chose qui me paraissait plus simple et plus facile à accomplir si je bougeais. Voilà, parce que pas besoin de le voir forcément à local ou choses comme ça pour pouvoir confectionner. Voilà, c'est né comme ça, mais il fallait que j'amène ma petite touche. Parce que je ne voulais pas juste revendre quelque chose qui existait déjà. Et c'est là qu'est venue l'idée de fabriquer ma pâte à crêpes avec du pain. Donc en récupérant les pains dans les boulangeries, parce que j'ai vu tout ce gaspillage qu'il peut y avoir dans toutes les boulangeries de France. Je l'ai surtout vu dans celle là où j'habitais. Et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose avec ça? Et voilà, c'est là où est né le projet de récupérer ces pains en transformant en farine pour pouvoir faire ma pâte et créer mes crêpes.
Oui, et puis tu as trouvé une première recette chez un chef, je crois.
Oui, après j'ai un peu introspecté sur Internet ce qui existait, ce qui n'existait pas.
Ouais.
J'ai vu qu'un chef le proposait et je me suis dit, je vais essayer de m'inspirer de ça, voir ce que je peux faire. Et je n'ai pas réussi.
Non, mais ce qui est drôle, c'est que du coup, sur nos journées collectives, maintenant, Jérémy vient avec ses différentes, où on fait testeur, ses différentes recettes de crêpes. Alors, Sébastien, en première ligne,
ouais.
Parce qu'à chaque fois, en fait, il teste des dosages, des assemblages.
Exactement, c'est beaucoup,
des ingrédients.
Beaucoup de temps et de travail pour trouver une recette, en tout cas, qui me correspond.
Ouais, c'est
pas
ça,
que c'est la meilleure.
Un petit peu perfectionniste. Hein.
Un petit peu. Du coup, j'ai fait beaucoup de pâtes différentes. J'ai eu beaucoup de temps. Et Sébastien mangeait beaucoup de crêpes. Moi aussi, j'ai beaucoup de crêpes, surtout dernièrement, là, pour essayer de trouver, en tout cas, un équilibre des dosages et pour l'étalage de la crêpe, ce qui était le plus important.
L'étalage de la crêpe. Sa consistance, le geste, la
Exactement.
Juste quantité.
Ouais.
Le nombre de cuillères de confiture. Je crois que d'ailleurs, dans le choix de tes... comment on appelle ça, des toppings, non ? Ça, c'est encore le truc en dessus, au plus. Bon, ce que tu mets dans la crêpe, quoi.
Oui. Le choix de mes garnitures.
Ouais, c'est ça.
Ah, le choix de mes garnitures, j'ai voulu travailler dans le local. Donc, c'est pareil, c'est des rencontres qui ont fait que j'ai choisi ces garnitures. Donc, pour les confitures, je travaille avec une...
Je pense que tu peux le dire. Ouais.
Calou.
Ouais, oui, Calou, bien sûr. Ouais. Séverine Calou, Saint-Germain-en-Mont-d'Or, qui fait des productions de petits fruits rouges vraiment très très bons et bio.
Oui, et bio.
Il a fait des magnifiques confitures.
J'ai pu la rencontrer et goûter ses confitures. Et du coup, on va travailler ensemble. Je vais aller chercher cet après-midi d'ailleurs pour le premier événement.
D'ailleurs. Parce que tu fais ton premier événement pro, là, en
demain.
Vrai. Demain.
Demain, à Saint-Germain-en-Mont-d'Or pour le feu d'artifice.
Excellent.
Demain, du coup, 12 juillet.
Exactement.
Donc, à Saint-Germain-en-Mont-d'Or, super.
Exactement. Oui, parce que pour ceux qui écouteront en podcast, on est en 2025. Hein. Super. Je me rappelle ta recherche aussi du matériel, tout ça.
Ah oui, pour trouver la crêpière... tout l'outillage, parce que j'ai été un peu novice au début, j'ai appris le vocabulaire en même temps que je regardais ma recette, que je cherchais mes dosages. Voilà, je me suis formé un petit peu comme ça, sur le terrain.
Je me rappelle quand on a fait ton chiffrage, ton modèle économique, on a essayé de chercher les prix de la farine, enfin, comment tu pouvais récupérer ton pain, les différentes... Enfin, c'était...
Exactement.
C'est chouette. Est-ce que tu peux nous dire, tu as commencé à répondre, ce qui t'anime justement dans le fait de travailler en local, l'écosystème local ?
Ce qui m'anime, c'est déjà de rencontrer les personnes qui produisent. Voilà, je ne voulais pas prendre tout, n'importe quoi. Pour moi, c'est hyper important de rencontrer les personnes, de les voir travailler et de pouvoir, en tout cas moi, vendre le produit qui est le mien par rapport à la recherche de ma pâte, mais en tout cas les garnitures, et de pouvoir en parler. On va pouvoir dire... D'où viennent les choses, comment c'est fabriqué. Ça, pour moi, c'est hyper important.
Par la même occasion, tu fais promotion aussi de leurs produits.
Oui.
C'est là où ça fait écosystème, en fait.
Oui, exactement. J'ai une affiche avec d'où viennent chaque produit.
Ton accompagnement avec Son Essence, qu'est-ce que ça t'a apporté ?
Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Tellement de choses. De voir que... qu'on pouvait rêver, mais que nos rêves et nos envies étaient possibles. Et c'est ce qui était le plus dur pour moi, en fait. Avant de rentrer là-dedans, j'étais vraiment perdu. J'avais l'impression de ne plus rien savoir faire, à part accompagner des personnes dans ce que j'avais appris. Mais je n'avais pas l'impression que je pouvais faire autre chose que ça, en tout cas, que faire des choses de moi-même. Et j'ai mis du temps à le comprendre, j'ai mis du temps à l'entendre. Aussi, mais c'est plutôt cool.
c'est clair.
Et de pas me sentir seul non plus, parce que c'est dur de lancer quand même une entreprise, de mettre son cœur, son âme, et il y a tellement de variantes qui rentrent en jeu pour lancer son affaire, que pouvoir être accompagné par des personnes qui connaissent leur sujet, du coup. Qui sont là pour nous rassurer, pour nous guider, pour nous écouter aussi. Et ça, c'est ce qui, en tout cas pour moi, était le plus important. Mmh. Et le plus rassurant aussi. Et puis aussi parce qu'il y a Sébastien.
Et de vivre avec Sébastien.
Voilà. Et de vivre avec Sébastien, parce que si je prends du temps aussi pour notre âme. Je prends aussi, il a pris beaucoup de temps aussi pour m'accompagner dans ce qui est mon entreprise de crêpes.
Oui, et puis dans l'accompagnement, on va jusqu'à l'environnement de vie. Et c'est vrai que tous les deux, en plus, il y a eu une période, une phase où vous avez projeté d'aller habiter dans un grand lieu avec quelqu'un d'autre aussi. Mm-hmm. Et que quand vous êtes allé visiter, en fait, vous êtes rendu compte que c'était finalement pas le projet.
Ouais.
Et du coup, il y a eu cette période, cet engouement où on s'est dit, ouais, ça y est, on va visiter des lieux et tout. Et finalement, non. Et aujourd'hui, est-ce que vous voulez en toucher deux mots de l'endroit où vous avez trouvé votre lieu finalement de vie qui permet et qui vous correspond aussi à tous les deux tellement
C'est sûr qu'on est parti autant perso que pro dans les tout était nouveau pour nous.
Hein. Oui, c'est ça. C'est...
On a construit notre pro et notre perso en même temps et comme tu disais, on a voulu je sais pas comment exprimer, mais
vous avez voulu répondre finalement à des besoins qui n'étaient pas aussi les vôtres en fait et qui n'étaient pas matures peut-être, si je peux le dire de l'extérieur.
Mm-hmm. Oui, c'est exactement ça.
Et du coup, je vais le dire moi avec mes mots, et tu reviendras dessus si tu veux. C'est souvent ça aussi qu'on explique. Des fois, c'est en marchant, qu'on se rend compte que c'est OK ou c'est pas OK. Mm-hmm. Et que ce qu'on perçoit comme un échec, souvent, c'est juste un non qui ferme une porte, mais qui permet d'en ouvrir d'autres.
Mm-hmm.
Et c'est une fois que vous avez vécu ce non, c'est pas adapté, c'est pas dans notre... finalement, c'est pas ce qu'on veut. Donc, en tout cas, pas maintenant. Que vous avez pu ouvrir sur autre chose.
Oui, on a exploré.
Voilà.
On a exploré des choses. Je pense qu'on est encore dans la recherche d'aider l'autre et on ne s'écoutait encore pas à ce moment-là. Et comme tu dis, ça nous a permis de fermer cette porte-là en disant, allez, on s'écoute, qu'est-ce qu'on veut, nous, tous les deux.
Et puis la personne aussi, d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Ça lui a permis de faire son projet ailleurs, autrement.
Mmh, exactement.
Et du coup, vous avez trouvé un lieu... c'est un camping dans lequel vous avez un emplacement magnifique, on dirait vraiment un petit oasis dans la campagne en fait. Et donc un habitat léger qui vous correspond, c'est ça aussi que je trouve très, très, très congruent.
Oui, Sébastien avait sa caravane, donc il était propriétaire de sa caravane. Donc du coup, on s'est dit, est-ce qu'on se lance à vivre dans cette caravane et comment ? Et on a trouvé un terrain à Villard-les-Dombes dans un camping, mais avec un terrain individuel qui est clôturé. Avec notre caravane dessus.
Et alors, clôturé avec des plantes. Hein. C'est pas de la clôture.
Non. Oui, c'est des haies qui font notre clôture.
Ouais.
Mais on a quand même notre intimité dans le camping, et c'est ce qu'on cherchait. On a eu la chance de le trouver. Et aujourd'hui, on vit donc à Villard-les-Dombes dans ce camping, sur ce terrain.
Ouais, vous êtes un bel exemple de toutes les dimensions que prend aussi un projet entrepreneurial. Dans un changement de vie.
Exactement.
Et donc, ma dernière question, comment tu te vois, toi, dans 5 ans, ou vous ? Enfin, certainement en vous, d'ailleurs. Mm-hmm. Ton projet, ton équilibre de vie pro-perso.
Comme je me vois dans 5 ans, et ben déjà que l'entreprise ait pu grandir. Et ce que j'aimerais... Non, c'est pas tout de suite. Hein, mais déjà, j'ai réussi à faire mes événements. Parce que, du coup, je vais faire comme avec Sébastien... tout ce qui est les marchés, les salons, les festivals, les marchés nocturnes.
Voilà. Côte à côte.
Voilà, on va essayer au maximum si on peut. Et l'idée, ça serait de pouvoir proposer aussi des prestations privées. Donc, pareil, pour des événements d'entreprise ou des anniversaires ou différentes choses à travers. Là, c'est en construction encore, mais en tout cas, ça serait l'idée de pouvoir... le proposer sur une prestation déjà définie.
Et quoi de mieux que les crêpes, c'est tellement convivial.
On est d'accord.
Ça, tout le monde aime quasiment.
Il me semble.
Surtout avec des bons produits dessus et puis là, toute l'histoire autour du sens, du territoire, de l'anti-gaspi que tu ajoutes à ces crêpes-là.
Exactement. J'essaye.
Merci.
Courant-porteur.
Initiative et résilience d'un territoire. deuxième partie d'émission, les principes de l'entrepreneuriat durable.
Nous avions vu dans la première émission du coup, les cinq principes que sont l'identité singulière, la santé, la résilience, la raison d'être et la durabilité.
Et du coup, on enchaîne avec ce que c'est que le flow, la tribu, la coopération, la circularité et les territoires interconnectés. Alors, on a voulu commencer par le flow parce que ça fait le lien avec la partie précédente. Le flow, on a mis la définition de trouver son rythme juste et le vivre au quotidien en conscience. Si on va dans la définition du flow, c'est un état mental dans lequel une personne se sent concentrée et totalement absorbée par une activité, ce qui peut conduire à une performance optimale et à un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. J'en ai une autre de définition. Le plaisir, la jouissance, la créativité et le processus dans lequel nous sommes totalement plongés dans la vie. Et donc ça aussi, c'est le flow. Elles sont plutôt plaisantes, ces définitions.
Oui.
Et ce concept de flow, alors flux en français, a été popularisé par un Hongrois. Je ne sais pas si je me risque à le prononcer.
Vas-y.
Oui, code. Non, je ne sais pas. Mihail?
Mihail Csikszentmihalyi.
Csikszentmihalyi, pardon pour lui et tous ceux qui prononcent correctement ce nom. On vous le mettra en référence. Hein. Ce concept date des années 70. Donc vous l'avez compris, c'est un état d'immersion totale dans l'expérience du moment présent qui crée en fait une sorte de sentiment d'alignement et il y a beaucoup de concentration, de focus, de présence. Et on n'a pas la sensation de travailler. C'est ces moments où le temps passe très très vite. Je ne sais pas si vous en avez vécu dans votre vie. Mais quand on est dans ces moments-là, c'est vraiment très enthousiasmant, très embarquant. Et pour nous, c'est aussi le flow, c'est une manière de vivre un processus, un enchaînement. Parce qu'il y a un moment, quand on est aligné à la fois, on est capable de s'exposer au monde tel que l'on est, qu'on fait ce que l'on aime et ce pourquoi on est doué, etc. Je vous renvoie à notre concept d'ikigai. Eh bien, il y a comme un enchaînement, et c'est Jung qui parle de synchronicité, mais il y a un enchaînement de moments qui donne une fluidité et qu'on a appelé aussi pour nous, c'est son essence, le flow.
Et dans cet état, on... Voilà, on atteint notre nature profonde et on arrive à accorder, à mettre en résonance les trois dimensions que sont à la fois le mental, le siège des pensées, les raisonnements, les idées, et également la dimension émotionnelle, avec tout ce qui est l'ordre de l'affect, de la motivation, de sa joie, de sa tristesse, ses sentiments. Et enfin, la dimension davantage physique, les ressentis corporels, les instincts, les capacités d'action. Et donc il y a une forme d'alignement quand on est dans cet état au cœur de notre ikigai, dans l'ici et maintenant.
C'est un concept qui a eu d'autres formes hein, et d'autres appellations dans diverses traditions orientales comme le bouddhisme, le taoïsme. Mais ce chercheur hongrois, ce psychologue, a permis à la science de rejoindre la conscience ou la spiritualité. Et il a contribué beaucoup à la recherche sur ce bonheur et sur la créativité. Et il est considéré comme un pionnier de la psychologie positive.
Et nous lançons à nous accompagner le challenge « Et si l'entrepreneuriat pouvait vous faire vivre au quotidien, si possible, le flow et cet alignement et cet état où on n'a plus conscience du temps et où on est dans sa vocation, essence, ouais. dans son essence, sans mauvais jeu de mots.
Alors c'est vrai que c'est très contradictoire avec ces idées d'accélération encore et toujours. Mais je crois que l'accélération et c'est cet assujettissement à l'obligation de faire quand on est entrepreneur et d'être exemplaire et d'être le premier au boulot, le dernier parti, c'est une occasion de trouver sa limite. Et avant de toucher cette limite, ça aussi pour moi c'est un vrai processus de santé, de trouver son rythme juste. Ça ne veut pas dire être lent, ça ne veut pas dire être tout le temps à fond, ça veut dire avoir des moments d'accélération, et c'est bon de vivre ces moments d'accélération. Ça peut être un rythme soutenu, mais avoir aussi quand c'est nécessaire, sentir quand le moment est nécessaire. Sentir ce rythme et ce moment où le vide est nécessaire, la joie est nécessaire, la célébration sont nécessaires. Je sais que quand on est salarié ou quand on est entrepreneur, eh ben, ce n'est pas si évident, c'est contraint, quand on a des enfants également. Mais c'est d'autant plus essentiel. Voilà. Absolument. Pour le flow.
Le septième principe pour nous est la tribu, qu'on a nommée ainsi, constituer un premier cercle de personnes épanouissantes et aidantes, et étendre au réseau.
Oui. On m'a toujours dit, et c'est commun, qu'il faut savoir travailler avec tout le monde. Et c'est vrai. Et dans le professionnel, c'est une évidence qu'il y a tellement de personnalités différentes qu'il faut savoir s'adapter à ça. Mais ce que l'on ne m'avait pas dit, et ce que j'ai découvert, c'est qu'on pouvait travailler avec des personnes où c'est juste le kiff de bosser ensemble. Et donc, c'est ça la tribu. J'ai pas retrouvé la référence, je la retrouverai, je vous la mettrai dans le corps de l'émission, mais la tribu, c'est être avec des personnes où c'est épanouissant de travailler. Voilà. Et donc, dans notre accompagnement, ce qu'on amène à caractériser, c'est les personnes avec justement, avec qui c'est bonheur en fait d'être ou de travailler. Et d'arriver à identifier justement quelles sont les caractéristiques de ces personnes. Et dans notre entrepreneuriat, dans notre business, de s'entourer, d'avoir ça en tête, pour pouvoir s'entourer au maximum de ces personnes-là. Et ça, c'est notre premier cercle.
Et Dieu sait qu'il est important d'être bien entouré quand on entreprend avec ce parcours, j'allais dire du combattant, mais, ou plutôt ce parcours... qui n'est jamais linéaire et qui vient nous confronter à nos peurs, à nos espoirs. Et voilà, et pour le traverser avec panache, il est vraiment important d'avoir des personnes qui peuvent nous écouter, nous soutenir, nous trouver des idées, nous montrer peut-être des limites qu'on aurait dépassées.
Il y a une réalité quand on commence ce genre de projet, dans tout projet, hein, mais l'entrepreneuriat notamment, c'est que les personnes qu'on rencontre vont d'abord nous présenter toutes leurs peurs, toutes leurs projections. Et c'est presque arriver à réussir malgré les autres. Voilà. Donc ça, c'est important de savoir et à cet endroit-là, d'écouter, mais de ne pas prendre à la lettre les peurs de tout le monde et les projections sur le monde. Il y a plein de choses, plein de formes qui existent.
Ainsi, pour nous, la tribu, c'est à la fois des soutiens émotionnels qui peuvent être familiaux, qui n'ont pas d'expertise sur la niche professionnelle, et bien évidemment, des personnes avec qui on a envie de bosser, alors de manière plus ou moins intégrée, hein, des associés, mais ça peut être aussi des bénéficiaires, des fournisseurs, des personnes de collectivité avec qui on peut parler vrai, avec qui on peut... parler de vision, de stratégie, mais également de qu'est-ce que c'est être entrepreneur. Et il y a un vrai boulot, on va dire, ou en tout cas une vraie action autour de prendre soin et nourrir cet écosystème relationnel qui nous porte. On est des animaux sociaux, nous, les Homo sapiens.
Et puis pour donner une autre dimension encore... dans l'exploration marché, alors on n'appelle pas ça une étude de marché parce que c'est pas tant quantitatif que ça, mais on incite les personnes à aller rencontrer des personnes inspirantes, d'autres projets qui nous amènent en fait à la fois des modèles économiques qui fonctionnent déjà ou qui sont proches ou qui ouvrent le champ des possibles. Voilà. Et avoir ces caractéristiques en tête nous permettent également d'aller trouver les bonnes personnes.
Et le principe d'après, on le nomme coopération.
J'ai oublié juste quelque chose, on a oublié le réseau avant de passer à la coopération.
Pardon.
Mais on va voir que c'est lié. Alors, si on dépasse la tribu, le réseau, c'est quoi ? C'est quelque part le reste du monde, mais c'est aussi les personnes qui sont juste à la frontière, à la passerelle, et qui permettent de déclencher aussi de la vente. Voilà. Et déclencher ses premiers marchés. On va vous mettre en ressources. Une superbe ressource, deux fois ressource, d'Alexis Kless, qui a été développeur économique chez Aradel et qui a créé un cahier qu'il a mis au commun, merci à eux, autour des 7 clés du réseau. Et dans ces 7 clés, alors, la première, c'est avoir un projet clair. Le deuxième, c'est déterminer des cibles précises adaptées à chaque objectif. Vous voyez, on est vraiment dans le concret. La clé 3, c'est du cœur de réseau au réseau le plus lointain. La quatrième, c'est la notion de recommandation. La 5 est presque ma préférée.
Oui.
C'est offrir plus que demander.
Nourrir et investir le réseau avec une notion de don pour pouvoir être aussi dans une juste réciprocité.
La clé 6 explique comment se passe un entretien réseau. Et la 7 permet d'évaluer son travail en réseau pour s'améliorer. Processus d'amélioration continue, bien sûr.
Bien entendu. Vas-y. Et donc la coopération, oui, et la 8e, construire avec mes parties prenantes et faire grandir les communautés locales.
Alors, si vous avez écouté la première émission, on a déjà parlé des parties prenantes et des communautés locales. Construire avec ces parties prenantes, je le redis, c'est en premier une posture, quand on n'est pas dans la concurrence, on est dans la complémentarité. Et la coopération porte bien ça. Ça permet d'être un peu plus serein aussi. L'autre n'est pas mon ennemi. Et je sais qu'il y a des secteurs qui sont très, très concurrentiels. Hein. Mais si déjà on part d'une posture où l'autre n'est pas mon ennemi, on est plutôt mieux, je trouve. Et puis, dans la notion de faire grandir les communautés locales, j'aime bien, là, j'en reparlerai, hein, mais de Léa Nature, où je vous ai parlé de l'ISO 26000, où on peut être une entreprise implémentée dans 35 pays, je ne sais pas pourquoi 35 d'ailleurs, et avoir une usine ou un bureau en local, et par le jeu de mécénat de compétences ou financiers, faire grandir aussi, non seulement nos salariés locaux, mais tout l'écosystème qui est autour. Toi, Ludo, je crois que tu as des choses à nous transmettre. Tu as parlé en termes de coopération de beaucoup de choses déjà dans une émission.
Bien entendu, ouais, ouais. Sur l'avant-dernière, la coopération, c'est aussi une posture en interne et une manière de faire vivre une gouvernance qui soit vivante, moins pyramidale, plus horizontale. Et donc, on parle évidemment de gouvernance partagée. Et à ce titre, je peux aussi recommander la structure on va dire, en pointe sur le sujet en France qui s'appelle l'Université du Nous et qui fait vivre ça dans la tête, mais aussi dans le cœur et dans le corps à travers ces ateliers du Nous, ADN, et qui sont voilà, des vraies clés pour du coup aussi s'épanouir dans le champ de comment je suis, mon jeu est au service du nous, et comment on arrive collectivement, si on est dans un collectif, hein, à prendre des décisions qui soient au service de la raison d'être et de chacune et de chacun. Pour moi, la coopération, c'est aussi la question de comment on contribue à faire ensemble émerger, nourrir le bien commun. Et là-dessus, je peux renvoyer aussi sur les travaux d'Elinor Ostrom sur comment, du coup, collectivement, on peut gérer des biens communs. Ça fait partie de tous les enjeux de la coopération. Là aussi, coopération, c'est un maître mot de l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a une multisémantique derrière. Riche.
Et pas que, parce que tu parles d'horizontalité. Je sais que toi, tu as beaucoup œuvré, travaillé dans ces milieux-là. Moi, pas du tout. Moi, je viens du monde de l'entreprise privée, des petites comme des grands groupes. Et on parle d'horizontalité, mais même en verticalité, en pyramidale, il y a des équipes dans lesquelles ça peut se vivre. Et on a observé dans l'entreprise que le maximum, l'idéal, on va dire, de management humain où la coopération peut s'installer, c'est 15 personnes. Donc on peut avoir une structure pyramidale, mais avec des microstructures de 15 personnes. Et chaque manager gère 15 équipes, etc. etc. Il y a des exemples d'entreprises qui fonctionnent comme ça, et des grands groupes. Et également, je vous mettrai en lien la notion de maturité des équipes. Parce que selon la configuration et la maturité des personnes dans l'équipe, il y a la possibilité d'aller vers plus d'autonomisation, plus de coopération. C'est pas tout le temps possible, mais ça se travaille aussi. Du coup, ça donne de l'espoir pour tout le monde.
Et nous abordons maintenant le neuvième principe que l'on a nommé circularité. Se doter d'un modèle économique circulaire ou régénératif de la conception à l'usage suivant. Derrière ce concept, il peut y en avoir d'autres. Cette idée de circulaire ou encore plus d'économie régénérative ou symbiotique, concept du coup aussi qu'on a investi et qu'on a développé dans une émission précédente et qui rejoignent ces principes-là, c'est cette circularité, les principes du vivant finalement, tout est cycle dans la nature. La permaculture aussi parle évidemment de circularité, mais aussi l'écologie industrielle, l'écologie contributaire, etc. Contributive, pardon. Et voilà, derrière le côté circulaire, très pragmatiquement, souvent on parle des 5 R de manière mnémotechnique, de voir comment on peut allonger la durée de vie d'un produit, par exemple en le réutilisant, on parle de réduction d'impact en pensant l'éco-fonctionnalité et l'éco-conception. On parle de recyclage, justement, si c'est bien conçu, on peut avoir des éléments modulaires dans la fabrication d'un produit et de manière à pouvoir recycler certains modules. On parle de reconditionnement ou de récupération. Et donc à chaque étape, finalement, du cycle de vie d'un produit, il y a des boucles qui peuvent faire en sorte qu'on n'ait pas à chaque usage, quelque part, reproduire avec tout ce que ça a comme coût de matières premières et d'énergie un produit neuf. L'économie circulaire compte 7 piliers officiels qui sont l'écologie industrielle. Donc c'est comment on va dire faire que les déchets d'une industrie deviennent la matière première d'une autre, que ce soit sous forme de matière de gaz, de chaleur, d'eau, d'énergie. Il y a ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire au lieu de payer un produit, on paye son usage. Il y a des exemples autour de l'imprimante ou de la voiture qui sont souvent cités. Les notions de consommation responsable ou de frugalité, c'est-à-dire se poser la question avant d'acheter, même si c'est la seconde main, un produit, dire est-ce que j'en ai vraiment besoin, envie. Il y a du coup la réparabilité pour allonger la durée d'usage, la notion de recyclage, et enfin la manière où ça, c'était le début finalement, l'extraction, l'exploitation et les achats durables, c'est-à-dire au démarrage comment on peut faire en sorte que les produits, les matières premières soient exploitées et extraites de manière le plus soutenable possible.
Il est clair que ce qu'on dit souvent, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc concevoir dès le départ avec la meilleure matière, le moins de matière possible, et avec une réparabilité. J'aime beaucoup dans l'économie de la fonctionnalité qu'on remplace l'usage, et donc des matériaux qui durent dans le temps et qu'on peut réparer, et du coup on paye juste l'usage, la location. Voilà. Je vous invite à aller découvrir les MOOC de l'UVED. Un MOOC de l'UVED. Alors un MOOC, c'est un format de ressources pédagogiques en vidéo. Et l'UVED, c'est l'université, alors je l'ai noté, virtuelle, environnement et développement durable. Voilà, donc c'est des enseignants universitaires qui ont fait ces MOOC. Il y en a plein. Et notamment, il y en a un qui est sur l'économie circulaire et l'innovation. Et un autre, environnement et développement durable. Voilà, il y en a plein d'autres, biodiversité, etc. Mais c'est des pépites pour comprendre de manière simple et pour tout le monde.
Et nous arrivons
au dernier.
Et oui.
Les territoires interconnectés. Alors, sur les territoires interconnectés, on a noté cette phrase. Essaimer les solutions des bassins de vie, interreliés les uns aux autres. Vous savez qu'on est sur un écosystème, un territoire local avec quelques bassins de vie et qu'on est vraiment à cet endroit de faire du lien entre les gens, les projets, chaque acteur socio-économique, de manière à ce que ces territoires eux-mêmes, et je vais redonner le mot de la résilience, soient les plus résilients possibles. Donc ça veut dire créer des solutions pour qu'on vive le mieux ensemble et qu'on soit le viable le plus longtemps possible. Et si on parle de territoire interconnecté, c'est que en fait, chaque territoire a aussi son identité propre, ses singularités, ses filières historiques, ses métiers d'artisanat, des métiers d'art qui sont propres à chacun. Donc chacun apporte ses particularités. Il a aussi ses industries historiques. Et donc c'est fort de ces identités singulières de territoire qu'en fait on crée cette résilience. Néanmoins, et aussi dans ces solutions qui existent, il y a des choses qui peuvent être déployées, essaimées dans d'autres bassins. Donc l'idée, c'est de réfléchir sur des écosystèmes locaux suffisamment petits, qui soient actionnables, où il puisse y avoir du lien, mais également d'essaimer ces solutions dans les autres bassins de vie. Et c'est comme des archipels, chacun, qui va être interrelié, interconnecté, parce qu'il y a aussi des flux qui sont nécessaires des uns aux autres.
Et dans cette dimension-là, on peut aussi, finalement sur chaque principe, mais là pour le coup, c'est agir local et penser global. Et là, à partir du moment où on parle de territoire, il y a cette. On peut, en faisant, on va dire, territoire de plus en plus vaste, ou en pensant la globalité des territoires, aller adresser les problèmes sociétaux, environnementaux ou sociaux. Auxquels on a envie de construire des solutions. Mais à partir, effectivement, du local, de notre ancrage territorial.
Voilà, avec ces 10 principes, on a des clés pour nos solutions de l'individu à l'autre, au reste du monde et à la société.
Une palette pour faire de l'entrepreneuriat un chemin de vie, de résilience et une piste d'espoir pour pouvoir créer la société
dans laquelle on a envie de vivre.
Voilà.
Comme le disait Sébastien tout à l'heure. Cette émission se termine. Comme Merci. D'habitude, vous retrouvez, je te rends la main après, vous retrouverez nos références et nos sources dans le corps de l'émission. Elle est disponible en podcast. Merci Jérémy. On n'a pas de coordonnées particulières à transmettre pour toi pour le moment. Tu n'as pas de site, tu n'as pas d'Instagram. Bientôt Instagram. Donc si on veut te joindre, on passe par Sébastien, par notre âme.
Mais on peut dire quand même
oui
que l'entreprise s'appelle Crêpe-moi le Quignon.
Mais bien sûr, oui. Crêpe-moi le Quignon.
C'est tout nouveau ça.
Oui.
Excellent.
Voilà, comme ça il y a la notion de crêpe
et de pain.
Et de pain.
Excellent.
Et ton logo d'ailleurs est très symbolique par rapport à ça.
Oui. À découvrir dans le week-end ou la semaine prochaine.
Ouais, tu nous l'enverras, peut-être qu'on arrivera à le mettre dans l'émission.
Et oui, au moment où l'émission sera diffusée, il y aura probablement d'autres.
Crêpe-moi le Quignon.
Crêpe-moi le Quignon.
Très impertinent voilà. Aussi.
Merci à vous deux.
Merci à vous.
Voilà, de vous être prêté à l'exercice de la radio, Sébastien, pour notre âme.
Merci à vous deux aussi.
Et Jérémy, du coup, pour cette activité de crêpe éco-responsable, Crêpe-moi le Quignon. Ça a été un vrai plaisir de vous accueillir, de vous accompagner et de vous voir toujours actif dans la tribu des entrepreneurs, accompagné par Sonnaissance.
Merci à vous.
Notre âme, je le rappelle, @nostramees sur Instagram.
Voilà.
À bientôt.
À bientôt. Merci Elisabeth.
Merci Ludo. Vous venez d'écouter Courant Porteur, initiative et résilience d'un territoire.
une émission mensuelle pour faire émerger un mieux vivre ensemble résilient dans le Val-de-Saône. Vous pouvez retrouver l'émission et ses références sur radio-calade.fr.
Et pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site sonessence.fr, SAONE2SENCE.